culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Hola, bon dia, bonjour et wow. Bienvenue au Culte Espoir.
Quelle introduction!
Ah bah ben, tu vois, tout le monde est inclus, tout le monde est accepté. Je suis ravie d'être ici pour une nouvelle émission. Et nous voilà déjà en plein mois de mars. L'année avance vraiment vite, vous ne trouvez pas?
Ça, c'est vrai.
Et je suis très contente d'être avec vous, les filles, mes amies chroniqueuses, Reshma, Marina. Comment ça va?
Ça va, hein, le plaisir est partagé. Contente de vous revoir.
Trop bien.
Ah, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Et pour compléter cette équipe de choc, aujourd'hui, quatre femmes autour de cette table, nous avons une super invitée, Susana Oliveira. Sois la bienvenue.
Merci, c'est gentil.
Susana, nous sommes très contentes de te recevoir aujourd'hui dans notre émission. Alors, je vais te demander de te présenter succinctement à nos auditeurs.
Alors, je m'appelle Susana Oliveira, je suis portugaise, ça fait 24 ans que j'habite ici en Suisse. Je suis mariée, j'ai deux enfants, un garçon de 16 ans, une fille de 20 ans. Je suis dentiste, mais aujourd'hui, je serai là pour présenter quelque chose qui parle pas du tout des dents, donc chers auditeurs, restez là, parce qu'on va parler de toute autre chose.
Et c'est vrai que nous t'avons invité, oui, dis-moi.
Non, mais surtout ce que j'allais vous dire encore, c'est que ce qui me définit en moi, c'est que je suis vraiment très contente d'avoir eu le privilège de grandir avec la certitude de Christ comme mon sauveur. Ah. Donc, depuis la toute petite enfance, j'ai appris ça.
Tu aimes Jésus
avec mes parents,
et tu es amie de Dieu.
Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, qui me définit, voilà.
C'est, j'aime bien ton sourire quand tu parles de ça.
Oui. Elle est rayonnante.
C'est le sourire des dentistes.
Ah, mais c'est vrai que, alors, nous t'avons invité à venir ici aujourd'hui et nous t'avons donné carte blanche pour choisir un thème.
Oui.
Qu'est-ce que tu as choisi? De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, je vais vous parler des compétences psychosociales. C'est quelque chose que j'ai trouvé, ce terme, que je ne savais pas qu'est-ce que ça englobait en fait. Bon, je n'ai pas senti trop comme ça, mais... et en fait, j'ai découvert ça lors d'une formation il y a quelques mois en arrière et je dis, mais dis donc, si on comprend ça, l'impact que ça a dans nos vies, dans nos familles, dans nos relations, parce que ça, c'est surtout au niveau des relations, comment ça peut être puissant. Et puis voilà, c'est sur ça qu'on va partager aujourd'hui.
Ah, c'est magnifique. C'est vrai que les compétences psychosociales peuvent être de plusieurs natures. Et tout à l'heure, chers auditeurs, on va les découvrir. Et j'ai hâte d'approfondir ce sujet ici, tout ensemble. Ouais. Et toi, chère auditrice, cher auditeur, est-ce que c'est un thème que tu gères? Tu es au clair avec tout ça? Reste avec nous et je suis sûre que tu sortiras après cette émission plus enrichie et avec une meilleure compréhension de cette thématique. Reshma, on te confie la chronique « Dieu dans ma semaine ». Quelle responsabilité, hein?
Ah oui, très grosse responsabilité.
Alors, quelle est ta réflexion pour aujourd'hui?
Alors, je ne sais pas pour vous, mais avant de me préparer pour cette émission, je n'avais vraiment pas entendu parler du terme « compétence psychosociale ».
Ah.
Je dois avouer que ce terme m'a fait un peu peur. On avait pensé, avec les amies chroniqueuses, de faire peut-être un micro-trottoir pour savoir ce qu'en pensent les gens. Mais je me suis dit, si on commençait à me poser des questions là-dessus, je serais bien en peine de leur expliquer quoi que ce soit. Donc, pour y remédier, j'ai effectué une recherche documentaire et je dois dire que c'est un sujet fascinant.
Ça, c'est vrai.
Voilà. Je laisserai le soin, bien sûr, à notre invité de nous conduire vers une explication détaillée du sujet. Mais de ce que j'ai compris, les compétences psychosociales sont simplement les capacités psychologiques qui me permettent de gérer les exigences et les soucis de la vie quotidienne de manière efficace pour être bien avec moi-même et avec les autres.
Ah, voilà, bravo. Bon,
c'est bien sûr ma définition toute simplifiée. Hein. Tu me diras si j'ai bien compris
très,
ou
très
pas.
Bien.
Et j'ai réalisé aussi que nous utilisons tous, de manière efficace ou pas, les compétences psychosociales. Permettez-moi d'illustrer. Durant ma journée de travail, je me suis retrouvée à suivre plusieurs dossiers urgents à la fois et je me suis dit que je ne m'en sortirais pas toute seule. J'ai alors demandé de l'aide à un collègue et c'est là la compétence cognitive qui permet une auto-évaluation, une prise de décision. Mmh. Au cours de cette même journée, une amie m'a appelée pour me parler de ses soucis, mais comme je n'avais pas vraiment le temps, je l'ai rassurée que je la rappellerai après le travail afin de lui consacrer une oreille plus attentive. Vous l'avez peut-être deviné, c'est la compétence sociale qui touche à la communication et à l'empathie.
Ah ben c'est vrai que c'est plus sage, hein, il vaut mieux faire ça que d'écouter et ne pas vraiment écouter la personne.
Exactement. Finalement, fatiguée après une longue journée, on me demande à la dernière minute de m'occuper d'un gros travail. J'ai failli tomber de ma chaise, mais j'ai respiré un bon coup et j'ai négocié un autre délai pour ce travail additionnel. Eh bien, c'est la compétence émotionnelle qui concerne la gestion du stress et la régulation émotionnelle. Je pense que c'est la compétence qui est un peu la plus compliquée pour moi, en tout cas. Et c'est souvent des choses qui ne me viennent pas naturellement. Ce qui m'aide beaucoup avant de commencer ma journée, c'est d'être en prière et en méditation pour demander à Dieu de m'accorder les compétences, la patience, l'amour nécessaire afin de bien gérer les situations de la vie quotidienne et les relations interpersonnelles. Car c'est lui seul qui peut changer les cœurs.
Voilà, chaque semaine, nous avons le bonheur de chercher partout dans nos bibles de textes bibliques qui nous encouragent et qui nous motivent pendant toute la semaine. Et alors, pour cette semaine, quelle est la trouvaille, Reshma?
Donc, pour cette semaine, c'est le verset 7 dans le chapitre 64 du livre d'Ésaïe qui dit ceci. « Pourtant, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es le potier. tes mains nous ont tous formés. Dieu, qui est notre Père par excellence, nous connaît mieux que personne d'autre, car c'est lui qui nous a formés. C'est notre Père qui peut nous façonner et nous accorder de vivre une vie épanouie en lui.
Voilà un verset rassurant, puisque celui qui nous a créés nous connaît parfaitement et il veut toujours notre bonheur.
Oui. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager dans notre chronique « Dieu agit » le témoignage d'une prof qui, au cœur de son enseignement, applique des compétences psychosociales auprès de ses élèves.
Je suis enseignante de maths, ça fait 13 ans que je suis dans le même établissement et puis j'ai commencé à donner des petits cours pendant mes études, donc c'est ça qui m'a permis de voir que ça me plaisait de voir des élèves avec un déclic en maths et puis l'utilisation des couleurs était très forte, donc du coup c'est quelque chose que j'utilise dans mes cours. Ça veut dire que pour faire des liens, bah, je vais voir la formule, dans la formule il y a plusieurs choses qui sont et puis du coup je vais mettre des couleurs pour le terme 1, 2, 3, je vais mettre des couleurs différentes pour les associer à l'application de la formule pour que les élèves puissent bien visualiser vraiment à l'aide des couleurs les choses. Puis je me suis dit aussi que les couleurs, ça permettait la mémorisation aussi. Quand on revoit une fiche, hein, on se rappelle de celle qui avait du bleu, du rose, et puis une autre fiche, elle avait du vert et du violet, et puis on va mémoriser mieux avec les couleurs. Puis bon, c'était assez simple au début. Puis j'ai vu que certains élèves étaient très fatigués au début de ma carrière et je leur offrais du chocolat pendant mes cours. Puis j'ai vu que bah, ça leur donnait le petit plus pour pouvoir suivre. Et puis un jour, bah, on est arrivé après le Pâques, il commençait à faire chaud et je me suis dit mince, faut que j'arrête le chocolat et faut que je trouve autre chose. Donc je me suis mis à créer des jeux pour remplacer ces moments chocolat et les jeux pour essayer de leur capter l'attention, de les faire travailler sans qu'ils s'en rendent compte. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à créer mes petits jeux, alors très papier, stylo, crayon. Et puis petit à petit, je me suis dit, ah mais mes jeux, ils vieillissent, il faut que je les refasse et ça prend du temps, il faudrait que je puisse les réécrire mais plus facilement, plus rapide, donc je suis passée à, bah, à l'ordinateur quoi finalement et puis plastification et puis c'est vrai que maintenant bah, ça prenait énormément de temps et j'en ai énormément et je peux les utiliser, les mettre sur mon site en téléchargement et il y a des élèves à qui ça parle beaucoup et du coup c'est pour vraiment se dire les maths c'est apprivoisable, on peut y arriver, c'est que ces élèves qui bloquent et tout d'un coup qui ont le déclic, non mais c'est facile hein, mais c'est logique, j'adore ce moment en fait. Et puis avec les jeux, on peut vraiment essayer de... Ok, on sort de l'application que j'arrive pas à faire et puis on essaye de voir si ben, sous un autre angle on y arrive ou aussi on travaille l'oral puisque dans mes élèves, il y a beaucoup d'élèves qui doivent pratiquer l'oral et savoir expliquer sans avoir 4 pages de calcul mais vraiment par oral, et ben, c'est quelque chose que je peux développer à l'aide des jeux quoi. Je dirais que je m'inspire beaucoup des profs d'école primaire parce qu'eux, ils doivent faire jouer les élèves et puis en fait, tous ces apprentissages passent par des jeux. Donc je vais sur internet, je vais chercher des choses chez les profs d'école primaire, puis voilà, ils font des dominos, bah je reprends des dominos mais avec des dérivés, je reprends des dominos mais avec des identités remarquables ou des mémories ou bien des puzzles, etc. Mais
est-ce qu'on peut peut-être parler aussi de ta manière de corriger les copies? Parce que c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup marqué. Tu peux expliquer comment tu fais?
Alors j'avais un cours de pédagogie à l'Uni qui était sur l'évaluation. Et puis, il y avait eu un travail où on devait réfléchir à quel sentiment on a quand on corrige une copie pour voir à quel point on pouvait être biaisé par rapport à notre ressenti sur un élève ou un autre. Et du coup, je me suis rendue attentive à « Oh, cette écriture-là, elle n'est pas agréable. Ah, cette écriture, elle est agréable. » Voilà. Et toutes ces petites choses qu'on ressent quand on corrige, en fait, je me suis dit « Mais si je les écrivais sur les copies directement ?» Pas au niveau de la présentation, mais au niveau du « Ah, mais ça, on l'a travaillé dans tel exercice, telle série. » Et du coup, je me suis mise à prendre des petits tampons de mes enfants, en fait, en forme de lapin de Pâques, en forme de... etc. Et leur mettre une bulle avec ce que je ressentais au moment de leur copie. Et je me suis dit que au lieu de corriger l'épreuve en classe, je préférais leur faire un dialogue en fait entre eux et moi, et puis vraiment essayer de faire comprendre à l'élève que j'avais passé du temps à sa copie, puis que cette faute-là, on peut y remédier en regardant cet exercice-là. Parce que voilà, ce qui est difficile pour un élève, c'est en épreuve de se dire « Ah, mais on a fait ça, mais dans quelle série, dans quel contexte c'était ?» Et leur essayer de remettre « Regarde cet exercice-là, c'est les mêmes énoncés qu'on a travaillé dans la série truc, l'exercice machin. » Et donc de faire des rappels de théorie, des rappels de « Ah, bah, bah bravo, et de mettre des petits bonhommes qui dialoguent en fait avec ce qu'ils regardent.
Et tu vises quoi du coup pour l'élève à ce moment-là?
En fait, j'ai des élèves des fois qui avaient eu des mauvaises notes au début de ma carrière, et puis ils voient la note et ils déchirent la copie. Et je me disais, mais en fait, ça sert à quoi que je mette des commentaires, des marques, etc. si en fait, tout ce qui les intéresse, c'est la note et c'est tout. Donc en mettant ces petits tampons, ces petits dessins, ces petits commentaires, en fait, ils vont vouloir aller voir qu'est-ce que t'as, toi. Ah, t'as le petit loup, ah, t'as la petite sorcière, t'as le petit machin et truc. Et c'est vrai que du coup, ils ont envie de lire, ils ont envie de regarder, et puis, donc ils la jettent pas tout de suite, quoi. Il y a un effet, je vais essayer d'apprendre, de corriger mes fautes, de voir plus d'élèves qui vont regarder les commentaires, et puis voir ce qu'il faut faire pour corriger, quoi.
Est-ce que t'as vu qu'auprès des élèves, ça a changé quelque chose?
Alors, j'ai un petit loup qui prend ses deux joues et qui fait un air genre effaré, et qui fait genre oh, quelle horreur cette note, cette faute. Donc c'était le commentaire, ah, quelle horreur, un truc du style, et j'ai des élèves qui m'ont dit, ah ouais, alors celui-là, je veux plus jamais le revoir sur ma copie, du coup, ça, j'ai fait en sorte de plus faire cette faute et je relis toujours ma copie. C'est très rare d'avoir ce genre de commentaire d'élèves, mais j'ai quand même eu, et je pense que voilà, cette méthode, elle me plaît bien pour ça. Je pense que c'est vraiment un dialogue individuel avec l'élève qu'on n'a pas en classe entière. En classe entière, on doit faire attention au groupe, on doit regarder ceux qui suivent, ceux qui ont leur téléphone partout sous la table, etc. Puis du coup, on peut pas avoir un dialogue personnel à chaque cours avec chacun des élèves, aller regarder individuellement chacun ce qu'il a fait sur sa feuille, en enseignant et puis en faisant faire des exercices. Enfin, le temps est compté. Donc je pense que les évaluations, c'est un retour sur est-ce que t'as bien vu ce que je voulais, est-ce que t'as vu que ça, on l'avait déjà étudié, à quelle fréquence. Donc j'aime bien marquer, voilà, on l'a vu dans la théorie, dans l'exercice, dans le livre, dans machin. Donc tu vois que la fréquence de cet exercice était tellement grande que c'était sûr que ça allait arriver à l'épreuve, en fait. Donc ces commentaires-là, c'est pour se remettre en question sur sa méthode de travail, puis aussi sur les fautes qu'on a pu faire. Ça touche ceux qui veulent être touchés aussi, hein.
T'es une femme chrétienne. En quoi est-ce que toute cette démarche est en lien ou pas avec ta foi?
J'entends des fois des élèves qui râlent et qui disent « Ah, mais tel prof, il m'a dit que j'étais idiot » ou alors voilà. Et ils ont vraiment un ressenti, en fait, très... Comment dire? Pas très gentil, en fait, face aux erreurs des élèves, face aux fautes. Et je pense que de se dire « Mais tous mes élèves, ils sont pas nuls, ils sont des êtres humains, des gens, qu'il y a des parents qui les aiment, ils font des efforts, même si ça se voit pas trop dans mon cours, parce que forcément, ils aiment peut-être pas les maths, et puis j'essaye de faire en sorte qu'ils vont aimer. » Je me dis « Je vais essayer de leur montrer que quand ils sont ici, ben, ils ont leur place. » Et je me dis, bon, on fait ce qu'on peut, on est humain, mais j'aimerais bien leur montrer, voilà, si c'était mes enfants, j'aimerais bien qu'ils sachent que, voilà, que, bah, ils peuvent y arriver, qu'on est là pour eux. Et je pense que c'est ce côté-là qui me dit, ben, on va pas s'énerver si un élève, il fait faux, on va essayer de lui faire comprendre que, bah, s'il prend le temps, s'il vient me voir peut-être à la fin du cours ou quoi, bah, il peut y arriver. Et je pense que cette dimension, on rabaisse pas un élève, on essaye de l'encourager, c'est ça qui me vient de ma foi.
Et est-ce que tu as des retours, du coup, sur ce travail que tu fais de la part de ces élèves? Est-ce qu'ils te disent, par exemple, qu'ils ont plus confiance en eux? Est-ce que tu le vois d'une manière ou d'une autre?
Il y a des choses qui ressortent. Ah, on voit que vous faites tout pour qu'on comprenne. Ah, on voit que vous êtes investi, on voit que vous êtes passionné, on voit que... Il y a 2-3 personnes comme ça qui le disent, donc c'est vrai que ça marque pas forcément tous les esprits, mais...
T'as envie de dire un truc encore?
Les maths, c'est accessible. Et tout ce que vous voulez, c'est accessible. Il suffit de se donner les moyens. Faut essayer. Comme le sportif, voilà, il doit aller sur le terrain. Puis le supporter, ben, il peut comprendre toutes les fautes, mais s'il va pas sur le terrain, il peut pas être bon et performer. Donc voilà, c'est ce que je dis à mes élèves. S'ils réalisent leur cours, ça suffit pas. Faut pratiquer et avec une page blanche au départ.
Nous venons d'entendre un témoignage fascinant de quelqu'un qui utilise la bienveillance chaque jour dans son milieu professionnel. Quel plaisir! Et je profite pour remercier nos auditeurs et nos amis qui sont toujours bien disposés à nous donner leur témoignage. Maintenant, c'est à ton tour, Susanna, de partager tes réflexions sur les compétences psychosociales.
Très bien. Alors, j'aimerais commencer par un petit peu d'histoire. D'abord, savoir quand est-ce que ça a commencé, où est-ce que ça a commencé. En 1986, il y a eu la Conférence internationale pour la promotion de la santé de l'OMS. Et à ce moment-là, à Ottawa, au Canada, ils ont parlé de compétences psychosociales ou life skills en anglais. Mais c'est seulement en 1993 qu'il y a eu vraiment un document officiel de l'OMS qui est sorti pour le grand public, qui parle de ces compétences psychosociales et comment ça peut impliquer dans la santé. Et justement, comme tu as parlé tout à l'heure, il y a la définition de ce que c'est une compétence sociale par l'OMS, et je cite, c'est la capacité qu'une personne a à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. Autrement dit, c'est la capacité d'une personne à maintenir un bien-être subjectif qui lui permet d'adopter un comportement approprié et efficace et positif dans toute occasion, par des interactions qu'elle a avec les autres, avec l'environnement, avec la culture, etc. Alors, qui n'aimerait pas avoir ces capacités bien développées, pouvoir réellement avoir cette capacité de contrôler ses émotions, de comprendre l'autre personne, d'avoir cette oreille attentive et surtout de ne plus être esclave de ses émotions, de ses réactions. Donc, ça me fait écho, je ne sais pas à vous, de quelques versets bibliques, parce que dans la Bible, on a aussi des versets qui nous parlent de ça. Par exemple, un verset pour la colère que j'ai trouvé ici, Proverbe 16, 32, qui dit « Qui est lent à la colère vaut mieux qu'un homme fort. Et qui gouverne son esprit vaut mieux que celui qui prend une ville. » C'est fort quand même, hein?
Ouais.
Bon, revenons à la notion de bien-être. Comme vous le savez probablement, pour avoir un bien-être physique et psychique, il y a deux composantes. On a les facteurs positifs ou les facteurs de protection qu'on a, et on a les facteurs négatifs ou les facteurs de risque. Et c'est bien sûr cet équilibre qu'on a entre ce qui est positif et négatif qui va permettre qu'on ait vraiment cet équilibre et ce bien-être. Les compétences psychosociales font partie de ces facteurs positifs qui peuvent nous aider vraiment à gérer nos émotions. Et comme tu as dit très bien, donc il y a plusieurs compétences psychosociales, elles sont séparées en deux groupes. Les compétences sociales qui sont liées par exemple à la communication, une écoute active, la communication non violente. Il y a aussi l'empathie, donc la capacité d'écouter et comprendre le point de vue de l'autre et avoir la capacité d'exprimer cette compréhension. La capacité de négociation, de gestion des conflits, la capacité de coopération et de collaboration en groupe et les compétences de persuasion et d'influence. Quand on pense à tout ça, j'imagine qu'on peut imaginer plein de situations dans nos vies où cela est nécessaire. Puis on a aussi les compétences cognitives, c'est des compétences de prise de décision et résolution de problèmes. Les compétences d'auto-évaluation, où on peut analyser en fonction de ce que nous on est, de nos croyances, de nos normes, de nos valeurs, pour prendre des décisions. Et finalement, on a les compétences émotionnelles, que sont ces compétences de régulation des émotions, la gestion du stress, de la colère, de l'anxiété, aussi la capacité d'auto-évaluation et autorégulation qui favorise aussi l'estime de soi. Et puis peut-être que vous pouvez vous dire, mais est-ce que ce n'est pas un effet de mode de parler de tout ça? Estime de soi, empathie, bienveillance, psychologie positive, communication non violente. Et non, c'est quelque chose qui est bien documenté par les recherches scientifiques, hein, depuis 20 ans. Il y a des recherches qui parlent de ça. Effectivement, on n'a peut-être pas, bon, peut-être vous un peu plus, mais moi, dans ma génération, on ne parlait pas trop des émotions. Surtout si c'était des émotions négatives, les garçons n'ont pas le droit de pleurer. Si on a peur, c'est parce qu'on n'est pas courageux. Voilà, on ne pouvait pas parler de ces choses-là. Et malheureusement, on n'a pas partagé non plus ça avec nos enfants. On n'a pas appris à nos enfants à en parler.
Ouais, il y avait une tendance à cacher un petit peu.
De ses émotions, exactement.
Il faut surtout montrer ce qui est positif et ce qui est négatif.
Tout à fait. Donc, je vais partager avec vous quelques études. En Hollande, qui est en longue étude, qui va à des enfants de 6 mois à 7 ans. Et on a vu que les enfants qui sont suivis par des parents empathiques, tous les deux, avec de l'empathie, il y a un épaississement du cortex préfrontal.
Mmh.
D'accord? D'autres études montrent que la bienveillance et de l'empathie développent le cortex préfrontal, surtout au niveau cortex orbitofrontal, qui est une partie du cortex préfrontal, qui permet d'avoir de l'empathie, d'aider l'enfant et l'adulte, la personne en fait, à faire face aux émotions, capacité de choix
et avoir le sens éthique et moral. Au contraire, quand l'enfant est puni et humilié physiquement ou verbalement, le cortex préfrontal ne se développe pas. Oui. Et donc l'enfant perd toutes ces capacités que j'ai dit là, seulement parce qu'il n'a pas dans son entourage quelqu'un qui est empathique et qui lui aide à avancer dans ses compétences. Parce que ces compétences, justement, elles ne sont pas innées, comme on peut comprendre. C'est quelque chose qui s'apprend, et c'est surtout les adultes, les parents qui sont les plus proches ou les professeurs qui vraiment ont la responsabilité, parce que l'enfant apprend beaucoup aussi par imitation, et qui ont vraiment cette responsabilité. C'est un travail qui va se passer pendant des générations. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire tout de suite, mais qu'il faut commencer maintenant, surtout quand on voit tout ce que nos enfants ils regardent aujourd'hui. Quand on regarde, par exemple, les influenceurs, le besoin d'avoir une capacité, une pensée logique et critique pour faire les décisions. Par exemple, les enfants qui restent cloisonnés face au jeu, l'isolement qui se provoque, la capacité de communiquer, comment elle est importante. Et bien sûr, l'estime de soi, quand on a tellement de choses qui vont et qui font que les enfants peuvent douter d'eux-mêmes. Et j'aimerais partager quelque chose qui est vraiment très important, c'est que quand on est bloqué par les émotions et qu'on a ce besoin qui est caché, notre cerveau, il n'est pas prêt à avancer dans l'apprentissage. Et donc, c'est très intéressant ce que cette prof, elle fait avec ses élèves. Et nous aussi, ça nous aide à comprendre dans nos relations de tous les jours, par exemple, un collègue de travail qui nous fait la tête ou qui nous répond d'une façon pas très correcte. Quand on comprend que derrière cette émotion, il y a un besoin, ça va permettre de prendre du recul, de ne pas prendre cette émotion contre nous, mais comprendre qu'il y a un besoin qui est derrière, et puis pourquoi pas prêter une écoute active, avoir une communication non violente avec cette personne pour l'aider à comprendre cette émotion et aussi à avancer. Donc, c'est des choses qui peuvent nous aider. Alors, après, certains peuvent dire, mais est-ce que avoir toujours cette écoute par rapport aux enfants, parents-enfants, par exemple, ça ne peut pas être un synonyme de laxisme? Alors, l'enfant fait tout ce qu'il veut et puis nous, on n'a rien à faire? Ben non, parce que le parent reste toujours l'enfant. Et il y a deux dimensions. Cette dimension verticale du parent vers l'enfant, où le parent, c'est lui qui pose quand même le cadre, mais aussi une dimension horizontale parent-enfant où le parent, il est empathique vers l'enfant. Il comprend l'émotion, il valide ce qui se passe, son besoin. Il va être là pour aider à combler ce besoin pour que l'enfant avance dans la sécurité. Et quand on parle de sécurité, ça me rappelle une notion de la psychologie, que c'est l'attachement. L'attachement, c'est une théorie de Bowlby. D'accord, que l'enfant, face à une difficulté, face à quelque chose qui le met en danger, il va chercher quelqu'un qui peut le rassurer pour se sentir à nouveau en sécurité et oser aller
affronter ses peurs,
et aller à la recherche et puis se développer. Donc, ce besoin vraiment d'être en sécurité, c'est quelque chose de très important pour l'enfant et pour nous tous finalement. Donc, si je peux résumer un tout petit peu, ces compétences psychosociales, elles sont vraiment importantes pour maintenir des relations saines en famille, mais aussi en société. Elle facilite la communication, la résolution des conflits, la compréhension des besoins émotionnels des autres. Leur absence, et ça c'est très important, peut contribuer à un climat familial tendu et favoriser les comportements violents, mais aussi le déficit de ces compétences peut être associé à des comportements à risque tels que la consommation de substances psychoactives. Oui, parce qu'effectivement, quand on ne sait pas dire non, quand on est facilement influençable, quand on n'a pas une estime de soi, voilà, les comportements sexuels à risque qui peuvent entraîner aussi des pathologies d'addiction, infections sexuelles transmissibles, troubles de conduite, les comportements violents. Donc, un manque de ces compétences peut entraîner tout ça. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, cet équilibre qui existe entre le positif et le négatif, parce que malheureusement, on ne peut pas vivre dans un monde où on n'est pas en contact avec des choses négatives qui peuvent nous faire du mal, mais cette capacité de pouvoir dire non à ce qu'il faut dire non. Et donc, il ne faut pas oublier que ces enfants, ils naissent pas avec ces compétences. Il faut que nous, les adultes, on les aide à acquérir ces compétences. Et pour le faire nous-mêmes, il faut les travailler, il faut qu'on les aille. Donc, il faut que nous, on soit conscients de qu'on a besoin de travailler ces émotions. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant, parce qu'il faut vraiment être conscient et chercher comment je peux faire pour développer les compétences psychosociales avec moi, avec mes enfants, avec ma famille et autour de moi.
Nous voilà dans la chronique « Et toi, ça te parle ?». Alors, j'aimerais inviter autour de cette table vos réactions chroniqueuses et inviter, bien sûr, Susanna, sur cette thématique du jour, la place des parents, finalement, dans le développement des compétences psychosociales des enfants. Et puis, finalement, de manière beaucoup plus large, de quelle manière est-ce qu'on socialise les uns les autres? De quelle manière est-ce qu'on communique? Voilà, place à vous.
Ben moi, ce qui m'a touchée, c'est qu'il faut vraiment apprendre à développer ses compétences, hein, parce que c'est pas évident de faire face aux difficultés de la vie, aux différentes situations, et puis de garder son calme, de pouvoir communiquer, de pouvoir prendre des décisions, etc. C'est quelque chose qu'il faut travailler.
Il faut travailler.
Et ce qui me console, c'est que j'ai pas besoin de le faire toute seule, quoi. Dieu m'aide, et puis son Saint-Esprit m'aide à me reconstruire, à m'auto-évaluer et à changer.
Et les personnes qui sont aussi autour de nous, hein, c'est l'importance de que tout le monde soit sensible à ces aspects-là. Mais c'est vrai, je trouve magnifique, c'est très beau tout ça dans la théorie, mais je trouve pas évident en fait après à appliquer. Ok, on n'est pas méchant, on ne cherche pas à faire du mal, mais dans la vie quotidienne. Avec les enfants, par exemple, il suffit qu'il y en a un qui te parle mal on a tendance déjà à se replier sur soi, fermer, à ne plus communiquer. Mais c'est très intéressant et important de travailler ça pour reconnaître le moment de difficulté et dire « Ah, ben voilà, même si j'ai envie de ne plus parler, bon, ça m'arrive. Hein, de, par exemple, ben, je suis fâchée, j'ai plus envie de discuter avec mon mari ou avec mon enfant. » Mais c'est là où il faut se forcer et se dire, tiens, voilà, j'ai appris comme ça. Et l'idéal, c'est cette action-là, je vais agir de cette manière.
De toute façon, ce n'est pas quelque chose qu'on va acquérir sur un moment. C'est un apprentissage de toute la vie. Plus tôt on commence à le faire, plus on a de la chance de devenir des adultes qui savent utiliser ces capacités. Mais ce n'est jamais trop tard.
Et c'est intéressant ce que tu dis, plus tôt on commence, mieux c'est.
Tout à fait.
Ils ont fait des expériences au Danemark, hein. À partir de 3 ans maintenant, on enseigne l'empathie dans les écoles et dans les crèches. Et ils se sont rendus compte, grâce à cette compétence qui était acquise, que ces enfants qui ont autour de 10 à 12 ans, ils étaient tout à fait en capacité d'agir quand ils étaient face à du harcèlement scolaire, par exemple. Ça veut dire qu'ils ont suffisamment de compétences pour observer quelque chose, une situation, voir qu'elle n'est pas acceptable. acceptable. Et puis, au lieu de reculer, à un moment donné, d'être en action mm-hmm. et puis de mettre fin à ces phénomènes de harcèlement.
De protéger l'autre et donc, venir en aide.
C'est ça. Mm-hmm. Et je trouve ça très intéressant de me dire, on va inculquer quelque chose, on va prendre du temps aussi, puis ça nous fait travailler aussi mm-hmm. en tant que parents peut-être. Autour de nos enfants, sur ces compétences. Et il y a des fruits qui sont portés, puis qui transforment quand même les vies. Hein. Puis je me dis qu'en tant que chrétien, ça doit nous interpeller, parce qu'on a envie aussi que les communications soient bonnes, on a envie que des enfants grandissent de manière saine, comme Dieu l'avait prévu à la création du monde, de se dire, il crée des êtres humains qui vont grandir d'une manière équilibrée, qui vont être accompagnés par des adultes qui les aideront à grandir de manière saine. Et je crois que même si depuis, alors il y a eu pas mal de choses qui se sont étiolées, hein, tu parlais aussi notamment des problématiques d'attachement qui sont tellement désorganisées aujourd'hui, qui créent des stress post-traumatiques, des addictions énormes. Aujourd'hui, je crois aussi qu'en tant que chrétien, on peut amener aussi de nouveau un peu de reconstruction dans tout ça.
Mais en effet, Dieu nous a créé des êtres pour être en lien avec d'autres personnes. Nous sommes pour vivre en société, mais pour vivre en société en qualité aussi. Mm-hmm. Pas uniquement on est là, mais tout le monde se bagarre et ça joue pas.
Et tu parlais de cette étude que tu as vue
au Danemark.
Au Danemark. Oui. Mais déjà, en Suisse, ça fait partie du plan d'études romand de travailler les émotions. Et c'est très intéressant. Ils travaillent dans les cours de musique, par exemple, ou dans les cours de gym, parce que l'émotion, elle est à fond dans les cours de gym. Donc, ça se travaille aussi déjà sur les écoles.
Ouais, ça, c'est une super bonne nouvelle. Est-ce qu'on aurait peut-être quelques textes bibliques qui pourraient donner un peu des pistes aussi pour nous, adultes? Est-ce qu'on pourrait proposer quelque chose autour de tout ça?
Oui, bien sûr, parce que justement, je me suis dit, tout ça, c'est pas nouveau. Hein. On ne découvre pas ça. Dieu, il nous a créé et surtout, il nous a donné un manuel qui nous aide. Par exemple, par rapport aux compétences de communication, est-ce qu'on peut avoir le verset 15-23 du livre de Proverbes? Proverbes 15-23, qu'est-ce qui nous est dit?
Alors, le verset 23 nous dit: une bonne réponse donne de la joie. Une parole dite au bon moment fait du bien.
Voilà.
Ah, la parole au bon moment, c'est
tout
clair.
Tout de suite. Il n'y a pas de secret.
Alors, c'est très clair.
Si on veut la gestion des conflits, par exemple, Proverbe 15-18 nous donne aussi quelques pistes.
Un homme coléreux provoque les disputes, mais un homme calme les éteint.
Voilà. La résistance à la pression, moi j'aime beaucoup celui-là. 1 Corinthiens 6, 12.
Certains disent « Tout m'est permis ». Oui, mais tout n'est pas bon pour vous. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas être esclave de quelque chose.
Voilà, moi j'aime beaucoup celui-là. Après, si on veut par exemple aller dans les compétences cognitives, on peut aller par exemple dans la prise de décision et résolution des problèmes. Proverbe 15, 22, par exemple.
Donc, Sally, quand on ne demande jamais conseil, les projets échouent. Mais avec beaucoup de conseillers, ils réussissent.
Voilà, avoir plusieurs avis.
Tout à fait. Au niveau des compétences émotionnelles, par exemple, pour la gestion de la colère, Proverbe 14, 29.
La personne qui garde son calme est très intelligente. celle qui se met en colère facilement montre sa bêtise.
Vous voyez ?
Ouais, garder son calme.
Pour la gestion du stress, par exemple, on a Psaume 46, 11.
Le Seigneur crie, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je remporte la victoire sur tous les peuples. Je remporte la victoire sur toute la terre.
Voilà. Oui. Sur ma version, c'est dit comme ça. Soyez calme et sachez que je suis Dieu. Et j'aime bien un verset qui parle de l'estime de soi. Chapitre 1 de Genèse, verset 26, qui dit comme ça. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur toute la terre. Ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. On a été créés par le Seigneur. Et le Seigneur, il n'a pas fait quelque chose qui n'est pas bien, de mauvais, qui n'a pas de
valeur. Il a dit, tout ce qu'il faisait, il disait, c'est bon.
C'est bon. Et puis quand il a créé l'homme et la femme, il a dit, c'est très bon. Donc, ça nous fait vraiment sentir cette valeur. On a de la valeur. On a de la valeur. Parce que c'est Dieu qui nous a créés.
Avoir l'estime de soi, c'est très important.
Tout à fait.
Merci en tout cas pour ce partage. Je suis sûre que les auditrices et les auditeurs vont réagir en tout cas. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur YouTube par exemple. Ça nous fera plaisir aussi de voir un petit peu comment cette thématique parle à votre cœur aussi. J'aimerais nous inviter à entendre maintenant un chant d'Anna Golden qui est chanté avec Carrie Joby. Take it to Jesus, amène-le à Jésus. Et les paroles disent ceci, si tu veux venir, tu peux rester un moment. Je connais un endroit où nous pourrions aller maintenant. Emballe toutes ces pièces cassées, saignantes, toute ta douleur, tous tes doutes. Je connais un endroit où nous pourrions aller maintenant. Quand tes questions n'ont pas de réponse et que tu ne peux pas comprendre, quand ton esprit continue à courir et que les larmes continuent à venir, tu n'as pas à expliquer. Il t'entend avant que tu ne parles. Viens avec moi, emmenons-le à Jésus. C'est l'endroit où tu pourras te reposer un moment si tu as besoin de t'effondrer. Laisse ton inquiétude, ne sois pas pressé. Prends tout le temps dont tu as besoin. C'est l'endroit où tu peux te reposer un moment.
I have no idea what to say right now. How could any words ease the pain right now? Something like this will never make sense, will never make sense at all. I have no idea what to say right now. And if you wanna come, you can stay for a while. I know a place we can go right now. We can go right now. When your questions don't have answers and you just can't understand it. When your mind just won't stop running and the tears just keep on coming. You don't have to explain it. He hears you before you can speak. Come with me. Let's take it to Jesus. Let's take it to Jesus. This is a place you can rest for a while. If you need to just fall apart. Place you can rest for a while. When your questions don't have answers and you just can't understand it. When your mind just won't stop running and the tears just keep on coming. You don't have to explain it. He hears you before you can speak. Come with me. Let's take it to Jesus.
Take it.
Let's take it to Jesus.
Take it.
Mm-hmm. Let's take it to Jesus. Before I could speak, even now.
I'd still take it to Jesus. Let's take it to Jesus.
Je crois que qui que l'on soit, parent, enseignant, dans les professions autour des bébés, des enfants, des préadolescents, des adolescents, des jeunes adultes, et puis finalement l'accompagnement de l'humain, quoi, hein, vers les compétences psychosociales, ça reste un défi particulièrement difficile. Les paroles de ce chant que nous venons d'entendre peuvent faire d'ailleurs du bien. C'est vrai que nous avons fait face à cette transition, à le nourrisson qui devait tout apprendre de nous, respecter nos codes, entrer dans notre moule, est devenu un bébé doté de compétences. Il est du devoir du parent, de l'enseignant, du soignant, de tout mettre en œuvre pour développer les potentialités de ce bébé. Quelle responsabilité, c'en est presque vertigineux parfois, tellement on se dit, est-ce qu'on va y arriver?
C'est ça, hein. On peut se décourager.
Ne découragez pas ceux qui ne sont pas encore parents.
C'est ça. Alors, pas de panique, c'est pas toujours simple, soit, mais ce n'est pas impossible de travailler avec les enfants. Ce gros mot, hein, des compétences psychosociales que tu nous as bien décrit. Merci, Susanna. Alors, on est quelques-unes autour de cette table. Place à l'émergence d'idées, des outils. Que pouvons-nous proposer comme outils à nos auditrices, nos auditeurs, pour les soutenir dans le développement des compétences psychosociales avec les enfants, ou entre nous, finalement, de manière plus large? Alors, moi, j'ai pensé à un jeu de Clémentoni. Donc, c'est une édition qui ont créé un jeu qui s'appelle Les mots magiques.
Ah, ça fonctionne comment?
Alors, c'est un jeu qui s'adresse aux enfants de 3 à 5 ans. On y découvre une fleur, la fleur de la gentillesse, c'est trop fou. Et c'est 8 pétales de mots magiques. Alors, les mots magiques, pardon, bonne nuit, voilà, s'il te plaît,
les mots
merci,
de base.
Est-ce que je peux, de rien, je t'aime, enfin voilà. Et l'enfant va trouver les scènes de la vie quotidienne à compléter avec la pétale magique, qui correspond. Par exemple, mamie demande à ma petite Aline, est-ce que tu veux bien m'apporter de la farine? Je dois faire un gâteau, donc il me faut plein de farine. Alors, je lui apporte de la farine. Comme elle me dit merci, mamie, moi, je lui réponds...
De rien.
De rien, voilà.
C'est la
première
apprentissage.
Exactement. Voilà, c'est que de rien qui est possible dans les mots choisis. Et voilà que nos petits-enfants de 3 à 5 ans vont travailler la socialisation, les émotions, l'empathie autour d'un moment ludique. Je pense aussi au jeu des besoins créé par Comities. Alors, tu le disais tout à l'heure, Susanna, derrière toute émotion, il y a un besoin. Mmh. Alors, Comities a créé un jeu avec 64 cartes d'alphabétisation. Donc, vous voyez ici.
Ah, elle est bien équipée, Marina.
Je peux montrer quelques cartes.
Bien, c'est
un jeu qui est fondé sur l'approche de la communication non violente, et puis il permet justement de déployer des compétences psychosociales, son intelligence émotionnelle, identifier et accueillir ses besoins. Alors il y a 9 règles du jeu différentes pour s'amuser puis varier les plaisirs évidemment. Alors on t'explique d'abord en gros que sont les besoins, les familles des besoins et comment être responsable de tes besoins. Comment tu peux les exprimer, comment tu peux demander de l'aide quand tu reçois un besoin. Alors par exemple, tu peux mimer les besoins profonds, tu peux découvrir tes besoins qui sont insatisfaits, aller à la rencontre de tes besoins qui ont eux été satisfaits, réfléchir sur le souvenir de tes besoins passés. Alors si tu choisis la règle du jeu de découvrir tes besoins insatisfaits, tu vas observer les cartes de besoins sur la table et tu vas te questionner de quoi est-ce que j'ai besoin en ce moment. Et tu pioches quelques cartes, tu dis « Ah ben voilà, moi j'aurais besoin peut-être de sécurité, j'aurais besoin de justice, j'aurais besoin de lâcher prise. » Alors là, carrément. Tu évalues ensuite l'intensité de ton insatisfaction. Hein. Est-ce que c'est un petit peu en tension? Est-ce que c'est en grande souffrance? Comment est-ce que tu te sens quand ton besoin est insatisfait? Comment ça se manifeste par des émotions, des réactions? Et ensuite, chaque participant est invité à prendre la parole et à partager ce qu'on vient de dire, indiquer son besoin insatisfait, son intensité, les ressentis. Et puis, on va un peu aussi dans l'empathie. Est-ce qu'il y a un choix qui a été fait par un membre du groupe qui t'a touché particulièrement? Lequel? Et puis, on l'exprime et puis on valorise aussi. On se questionne aussi pourquoi ce besoin finalement est insatisfait. Est-ce que c'est de ma responsabilité? Est-ce que je suis empêchée de pouvoir avoir ce besoin satisfait? Et puis, on peut terminer en allant faire un tour vers l'état émotionnel. Hein. Comment vous vous sentez alors que nous allons clore ce jeu? Et là, évidemment, Comitiz a créé le jeu de cartes des émotions. Alors, on peut combiner les deux jeux possibles et on va ensuite à la découverte des émotions.
Ah, bah, c'est chouette comme activité, là, c'est pas mal, famille, ouais. Avec les enfants et tout ça.
Exactement. Et même au travail, hein. Ça se fait aussi, oui, oui. Bien sûr. Ouais, oui. Moi, ça m'arrive de lancer les colloques, par exemple, d'équipe le matin en disant, bah, voilà, où on en est aujourd'hui, avec quoi on commence cette journée, avec quels besoins. Mm-hmm. Et puis, on fait le point à la fin du colloque aussi pour voir si
il
y a des choses qui vont mieux.
On va venir travailler dans ton équipe, Marine.
Ben, bienvenue, je recrute bientôt.
Alors, moi, j'ai apporté comme idée un jeu qui s'appelle Bisou Dodo. Vous connaissez ?
Non, mais ça m'intéresse.
Alors, c'est fait pour des enfants à partir de 3 ans. Et chez moi, en tout cas, nous avons joué pendant longtemps avec nos enfants, pendant des années, c'était fantastique. Alors, c'est un jeu de cartes pour établir un rituel au moment du coucher. Dans ce jeu, il faut trouver parmi toutes les cartes l'oreiller, le dodo, la couverture. Et à la fin, il y a plusieurs autres. Par exemple, il y a le bisou papillon. Donc, on fait des bisous comme ça avec les...
Avec les yeux, les cils.
Avec les cils.
Parce que moi, je faisais ça avec mon enfant, oui, mais je ne savais pas que ça existait.
Oui, ça encore. Existe.
Ah, d'accord. Okay.
Et du coup, l'objectif, donc, c'est d'utiliser toutes ces cartes et de trouver ces trois autres principales hein, pour dormir, l'oreiller, le dodo, la couverture. Et de préparer l'enfant au moment du coucher. Et selon les cartes qui sont retournées, il y aura des chatouilles, des câlins et des bisous. Et c'est un jeu qui contribue à vivre de bons moments en famille, à rigoler ensemble et à se faire plein de bons souvenirs aussi. Mm-hmm. C'est vrai que c'est chouette. Et actuellement, chez moi, par exemple, on n'utilise pas un jeu de cartes comme ça. Mais nous avons trouvé un moment de qualité. C'est tous les vendredis soirs ou le samedi où chacun écrit une gratitude sur un bout de papier et on met dans un vase. C'était en action d'ailleurs d'ici de notre culte d'espoir. Et on va rassembler tous ces petits mots jusqu'à la fin de l'année et au mois de décembre, vers Noël, on va les lire et se rappeler de tous les cadeaux que Dieu nous a offerts pendant toute l'année.
C'est trop bien, ouais. Trop bien. Merci en tout cas aussi. Peut-être pour les parents ou les adultes qui souhaitent avoir quand même quelques conseils en termes d'outils, mais sans passer par des jeux, parce qu'ils ont peut-être besoin de consolider un tout petit peu l'apport théorique. Moi, j'aurais envie de leur conseiller la chaîne YouTube et Instagram de Papa Positive, qui est un jeune papa qui a créé énormément de contenu maintenant, de livres, qui donne plein d'outils pour gérer les enfants, pour savoir de quelle manière accueillir leurs émotions, cadrer certaines choses, comment les aider à gérer leur colère. Et il y a plein de petits outils tout à fait pratiques qui sont quand même intéressants à utiliser.
Cool.
Il y a aussi quelque chose que je peux dire là ?
Bien sûr.
Oui, parce que je pense à quelque chose, c'est pour nous aider à gérer nos émotions, on peut aussi penser à un cercle, en fait trois cercles. Il y a un cercle qui a que nous qui avons le pouvoir de changer quelque chose. L'autre cercle après, nous sommes influencés, mais on a un petit peu de pouvoir. Et il y a le troisième cercle où on n'a aucun pouvoir. Donc face à une situation, il faut voir dans quel cercle cette situation est. Est-ce qu'on a le pouvoir de changer quelque chose ? Alors on peut le faire. Est-ce qu'on n'a pas de pouvoir ? Alors on lâche prise. Mm-hmm. On se dit, ok, je ne peux rien faire. Je vais gérer mon émotion autrement et puis je vais avancer différemment. Donc, savoir quel pouvoir on a face à la situation pour pouvoir agir aussi, ça peut nous aider.
Alors, merci. Ceux qui veulent d'ailleurs découvrir cet outil, ça s'appelle les cercles de Covey, C-O-V-E-Y.
Oui.
Ça, c'est hyper intéressant dans le quotidien, dans les décisions à prendre. Quand on est face à des difficultés, c'est très, très intéressant comme outil. Merci.
Eh bien, bravo, merci à chacune pour toutes vos idées. Là, nous avons reçu plusieurs clés, plusieurs ressources hein, pour mettre en place tout ça et appliquer les compétences psychosociales au quotidien. Mais je vais vous apporter une autre ressource. une grande ressource, c'est Dieu hein, dans notre vie. Vous savez, c'est pas un secret. Et c'est vrai que c'est un défi. Ce n'est pas toujours facile d'adopter le bon comportement au bon moment. Alors, je te propose, cher auditeur, chère auditrice, de demander à Dieu de t'aider et de nous aider. D'ailleurs, Jésus est notre grand exemple. Ici sur Terre, il a encouragé les personnes, il a donné de la valeur à chaque être humain. Alors là où tu te trouves, je te propose de fermer tes yeux, de prendre une position où tu seras à l'écoute et nous allons prier ensemble.
Père Céleste, merci parce que tu nous as créés. Merci parce que on a de la valeur à tes yeux. Merci parce que tu as tellement de bonnes pensées pour nous. Tout ce qu'on peut faire avec toi, c'est inimaginable. Il n'y a pas de limite. Alors Seigneur, je te demande, pour chaque auditeur, chaque auditrice, pour chacun d'entre nous qui est là, que tu puisses nous entourer avec ton amour et que cet amour déborde vers les autres personnes pour qu'on puisse avoir de l'empathie, de l'amour, la compréhension, la capacité d'écouter, de comprendre, d'aller vers les autres, d'aider. Ces compétences qu'on a parlé ici, aide-nous à les développer. C'est pas d'un jour à l'autre qu'on le fait, mais ce n'est pas impossible parce qu'on sait qu'avec toi, tout est possible. Tu nous donnes la sagesse pour avancer et pour le faire. Merci parce que tu es avec nous chaque jour de notre vie. Et on te demande tout ça au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Et voilà, nous sommes au culte espoir et aujourd'hui on a parlé de choses très concrètes hein, dans le quotidien quand on expérimente tout ça, comment réagir de manière positive et être en bonne interaction les uns avec les autres et être bien avec soi-même. Mais Reshma, je te demande comment on peut expérimenter tout ça au quotidien?
Oui, parce que c'est l'action, c'est ça. Hein,
voilà. Exact, place à l'action, fais-nous bouger.
Donc, on a beaucoup parlé de jeux et je vous propose un autre jeu parce que je trouve que c'est une très bonne façon d'apprendre de nouvelles choses. C'est le jeu du pardon. À la fin de chaque semaine, par exemple, pourquoi pas le vendredi soir, après une longue semaine fatigante, etc., réunissez la famille autour d'un bol de votre friandise préférée, que ce soit chocolat, fraises, chips ou autre, vous voyez. Bref, quelque chose que vous aimez manger. Et à chacun son tour de demander pardon pour une chose et de manger la friandise que vous aurez choisie. Vous pouvez aussi le faire entre adultes, ça aidera certainement à consolider les liens tout en illustrant qu'il est bon de se pardonner et de s'aimer les uns les autres. Par exemple, vous pouvez demander pardon parce que peut-être je t'ai grondé sans prendre le temps de t'écouter. Pardon parce qu'hier j'ai boudé toute la journée. Pardon d'avoir refusé de ranger le lave-vaisselle ce matin, pardon d'avoir mal répondu et de t'avoir blessé, pardon de ne pas avoir pris en considération tes émotions. Donc, autant d'exemples qu'on peut l'utiliser et en parler, demander pardon les uns aux autres.
Wow.
Merci.
Eh bien, on va choisir nos friandises. Hein? On va mettre tout ça en place. Excellente action. Merci beaucoup, Reshma. Et voilà, une manière efficace de joindre l'utile à l'agréable. Pas toujours simple de demander pardon, hein, mais une chose tellement importante. Merci, les amies chroniqueuses, pour votre participation. Merci d'avoir construit cette émission ensemble. J'ai passé un excellent moment avec vous.
Partagé. Merci beaucoup.
Alors, vous pouvez pleurer et dire merci.
Merci, Mildred.
Susanna, je te remercie aussi d'être venue à notre culte d'espoir.
C'est un plaisir.
Merci d'avoir choisi un sujet aussi important. Et ça serait bien qu'on en parle plus souvent, hein, un sujet essentiel pour notre vie. Chers auditeurs, merci beaucoup pour ton écoute. Merci d'être toujours là, de nous soutenir. Merci de partager nos émissions avec tous tes amis, tous tes ennemis, avec tout le monde. Je te souhaite une bonne réflexion pour ce thème et aussi une bonne application dans ta vie pour cela. Alors, bonne journée, bon sabbat et à tout bientôt.
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.